Amen, alléluia. Bonjour à chacune et à chacun. Comme Bruce l'a dit, le pasteur Laurent est à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est moi aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ouais, pas trop sincère, mais c'est pas grave. Ah, c'est sincère. Ça va, Gabi est sincère. Je vous souhaite une bonne journée, une belle journée, et surtout une bonne fête à toutes les mamans. J'ai pas encore eu l'occasion d'appeler la mienne, mais je vais le faire tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de bien particulier. Nous sommes dans une série. La raison pour laquelle je me suis mis ici, c'est parce qu'il y a des gens là-bas. Vous les voyez pas, mais moi je les vois. Et donc je veux qu'ils se sentent inclus. Soyez les bienvenus, vous aussi, il n'y a pas de raison. On peut les accueillir aussi. Voilà, Jésus aime tout le monde, même ceux qui sont sur le côté. Donc j'essaie de limiter. Nous sommes dans une série que le pasteur Laurent a débutée qui s'intitule « Les fondements de la vie chrétienne ». C'est basé sur Actes 2:42. Alors que Jésus est remonté au ciel, juste avant, il a dit à ses disciples, il a dit aux gens qui le suivaient, qui étaient appelés des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, ceux qui suivaient Jésus-Christ, il leur a dit « Restez là où vous êtes et attendez. Attendez la promesse. Attendez que l'Esprit de Dieu descende sur vous, descende en vous, fasse son habitation en vous. » Et à ce moment-là, vous pourrez partir. À ce moment-là, vous pourrez agir, vous pourrez aller voyager, etc. Et dans Actes 2:42, alors que l'Église est en train de naître, il nous est dit que les apôtres, les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui aimaient Jésus-Christ, tous ceux qui le suivaient, il nous est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ce matin, j'aimerais simplement apporter bien humblement, mais de tout mon cœur, un enseignement. L'Église de Jésus-Christ est appelée à être la même. Nous devons persévérer dans ces choses. Et ce matin, bien simplement, c'est un enseignement que j'aimerais vous apporter de la parole de Dieu. Rassurez-vous, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'aimerais simplement nous poser une question. Qu'est-ce qui, d'après la Bible, plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui fait plaisir au cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? La parole nous dit dans Luc 8:18, quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur terre? Qu'est-ce qui différencie un chrétien d'un non-chrétien? C'est le fait que nous avons une espérance. Nous avons la ferme assurance que tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Que tout ce que Jésus a dit, que tout ce que Jésus dit encore et tout ce que Jésus peut encore te dire basé sur cette parole est vrai. Que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été annoncé va un jour se réaliser pleinement, va s'accomplir pleinement. Le mot foi en grec que l'on trouve dans les textes originels, c'est le mot pistis et la traduction de ce mot c'est simplement être persuadé. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? C'est être persuadé. Il y a des gens qui mettent leur foi en l'humanité. Ils sont persuadés que l'humanité est bonne. Ils sont persuadés qu'ils ont un bon fond. Il y a des gens qui mettent leur foi dans la science. Ils sont persuadés que grâce à la science, que par la science, on peut tout résoudre. Il y en a qui ont la foi en eux-mêmes. Il y en a qui ont la foi dans les autres, etc., etc. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir foi en Dieu. Être persuadé que Dieu est bon. Être intimement convaincu que Dieu nous aime. Être convaincu au plus profond de notre cœur que quoi qu'il nous arrive dans la vie, Dieu est au contrôle. Que Dieu n'est pas surpris. Que Dieu n'est pas en train de s'amuser ou de jouer avec toi, mais qu'il a un plan derrière tout ce qu'il peut se produire dans ta vie. Comment est-ce qu'on peut persuader quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes persuadés? Il faut simplement des arguments. Il faut simplement avoir des preuves, il faut avoir des témoignages, et on en a des centaines, on en a des milliers dans la Bible. Dans la Bible, mais pas que dans la Bible. Dans ce lieu, il y a des dizaines de personnes qui, elles aussi, peuvent vous dire « Ce qui est écrit dans ce livre, c'est vrai, parce que je l'ai vécu. Ce qui est écrit dans ce livre, c'est vrai parce que je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore aujourd'hui. » Et Romains 10:17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » on en revient toujours à Dieu et à sa parole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont eu et qui ont expérimenté la foi. Et nous devons, nous aussi, nous en servir pour l'avoir, pour la développer en nous. Et j'aimerais rapidement, simplement prendre un exemple. Dans l'Ancien Testament, mais encore de nos jours, il y a un homme que l'on appelle le père de la foi. Il y a un homme que la Bible appelle le père de tous ceux qui croient, le père de tous les croyants. Cet homme, c'est Abraham. Abraham, son histoire est racontée dans Genèse. Et pour certains, c'est une jolie fable. Pour d'autres, c'est un mythe. Mais pour nous, chrétiens, c'est une réalité. C'est un homme qui a vraiment vécu, certes, il y a très longtemps, certes, dans une contrée très éloignée, mais sa vie a réellement existé. Cet homme a réellement existé. Et ce que nous lisons dans Genèse est véritablement sa vie telle qu'elle s'est passée. Il est intéressant d'étudier la vie d'Abraham et de pouvoir en retirer des enseignements. Si Abraham a pu obtenir ce titre, le titre du père de la foi, le titre du père des croyants, c'est parce qu'il a lui-même expérimenté la foi. Parce qu'il a lui-même eu la foi dans sa vie. Et j'aimerais attirer notre attention sur le fait que Abraham n'a pas eu la foi une fois. La foi, c'est pas qu'une fois. Il l'a eu à de multiples reprises. On pourrait penser à Abraham, le grand Abraham, une fois ça aurait suffi. Ben non. La foi, c'est pas quelque chose qu'on obtient en une fois. C'est pas quelque chose que l'on va expérimenter ou que l'on va démontrer une seule fois dans sa vie et puis une fois qu'on l'a eu, c'est bon, je suis tranquille, je peux continuer à vivre tranquillement. Non, la vie avec Dieu, c'est une vie durant laquelle, à plusieurs occasions, à de multiples reprises, nous allons être appelés à expérimenter la foi, à vivre la foi, à laisser la foi faire son œuvre dans notre cœur. Et Abraham n'y a pas coupé, c'est lui le premier à avoir expérimenté cette foi et j'ai relevé trois instants. Trois moments dans sa vie, trois fois où la foi s'est manifestée. Et pour prouver que, effectivement, cette vie de chrétien, c'est pas quelque chose qu'on obtient en une seule fois, en signant un papier ou simplement en se faisant baptiser. Dans 2 Timothée 4:7, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La foi qu'il a obtenue, la foi qu'il a reçue, il l'a gardée. Et il s'est battu spirituellement, bien sûr. Il compare sa vie à une course, il compare sa vie à un match, à une lutte. Mais il dit que jusqu'à la fin, il a gardé la foi. Et nous aussi, en tant que chrétiens, en 2018, nous sommes appelés à avoir la foi, mais nous sommes appelés à garder la foi. Nous sommes appelés à marcher dans la foi. Nous sommes appelés à expérimenter la foi dans nos vies. Et l'étude de la vie d'Abraham m'a permis donc de simplement en retirer trois expériences, trois moments où la foi s'est manifestée. Tout d'abord, une foi suscitée, puis une foi expérimentée, et enfin une foi éprouvée. Avant d'aller plus loin, je vais simplement vous demander de bien vouloir baisser la tête et de fermer les yeux et de vous joindre à moi en prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Et Seigneur Jésus, je te demande de te manifester maintenant, au travers de ta parole, Seigneur. Je te prie de prendre mes mots, Seigneur mon Dieu, de les inscrire dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, comme moi j'ai pu l'expérimenter cette semaine, Seigneur mon Dieu. Fais grandir la foi en nous. Viens déposer la foi dans le cœur de celui qui n'en a pas. Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur Jésus. Que nous puissions expérimenter, que nous puissions mettre notre foi en action, que nous puissions grandir dans la foi, que tu puisses augmenter notre foi, afin que ton nom soit élevé, le nom de Jésus. Amen. Dans Genèse, au chapitre 11, on nous parle d'Abraham pour la première fois. On nous parle de sa généalogie, on nous dit de qui est-ce qu'il est le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petit-fils. Mais on ne nous donne absolument aucun détail sur sa relation avec Dieu. On ne sait même pas s'il en avait une. Abraham apparaît comme ça un petit peu de nulle part. Et Genèse 11 au verset 1 nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » On ne sait absolument pas si Abraham était croyant. On ne sait absolument pas d'où est-ce... Enfin, on sait de la ville de laquelle il vient, mais on ne connaît rien de sa relation avec Dieu. On ne sait même pas s'il en avait une. On ne sait pas si c'était un homme pieux. Est-ce que c'était un homme bon? Est-ce que c'était un filou? Est-ce que c'était un traître? Est-ce que c'était un vicieux? Est-ce qu'on ne sait rien du tout? Mais ce que l'on sait, c'est que Dieu s'adresse à Abraham. C'est Dieu qui le choisit, peu importe la vie dans laquelle il est, dans laquelle il était. Aucune information sur son caractère, aucune information sur lui. De nulle part, on voit Dieu tout d'un coup s'adresser à Abraham simplement parce qu'il l'a voulu. On nous dit qu'Abraham se trouve dans une ville qui s'appelle Charan. Alors que son père était en destination pour la ville de Ur en Chaldée, il s'est arrêté à Charan et il est décédé. Et Abraham est resté là, il a vécu là. Et alors qu'il est là, Dieu s'adresse à lui. Apparemment, de nulle part. Il va lui parler et il va lui dire, « Lève-toi, sors de là où tu es. » Le mot « Charan » veut dire « assoiffé ». Spirituellement, symboliquement, Abraham était dans un état de dessèchement intérieur. On ne sait pas si c'était à cause de ses actions ou quoi que ce soit, mais il devait y avoir quelque chose qui manquait à sa vie puisque Dieu s'est adressé à lui. Dieu lui a parlé et il lui a dit, cette ville qui reflète ton état de sécheresse, ton état de dessèchement intérieur, lève-toi et quitte-le. Lève-toi, pars. Pars de ta zone de confort. Quitte ce pays que tu as connu et le seul pays que tu as connu. Quitte et va dans un pays que moi, je vais te montrer. Et je ne peux m'empêcher de faire la relation avec dans ma propre vie. Le moment où moi aussi, j'étais dans un état de dessèchement. Un état où je pensais avoir tout ce que j'avais, mais tout ce que j'avais ne me satisfaisait pas. Alors que j'avais humainement tous les biens et toutes les relations que je pouvais avoir, que je pouvais espérer, ça me laissait dans un état sec. Et à ce moment-là, j'ai entendu moi aussi la voix de Dieu me dire « Lève-toi. Lève-toi, sors de cet état, sors de ce pays dans lequel tu es et va dans un endroit que moi, je vais te montrer. » Et c'est exactement ce qui est arrivé à Abraham. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire encore ce matin dans ta vie. Dieu veut susciter la foi, peut-être de nulle part, peut-être que c'est la première fois que tu viens ici ou peut-être que ça fait des centaines de fois que tu vas à l'église. Mais ce matin, Dieu veut susciter la foi dans ton cœur. Il voit ton état et le constat est rédhibitoire. Tu es dans un état de sécheresse, tu as un cœur sec, tu es dans cette ville de Charan et Dieu te demande de te lever, de quitter tout ce que tu connais, tous tes raisonnements, toutes tes façons de penser afin qu'il puisse t'emmener dans un pays qui est bon, dans un pays dans lequel il y a un avenir pour toi parce que si tu restes là où tu es, ça va pas aller en s'arrangeant. Si Abraham était resté dans cette ville assoiffé, il serait peut-être mort assoiffé. Mais ce matin, toi aussi, Dieu te demande de te lever. Simplement au son de sa parole. Il te demande de lui faire confiance. Il te demande de te lever et de quitter cet état dans lequel tu es simplement pour le suivre. Parce qu'il a un avenir pour toi. Parce qu'il a de l'espérance pour toi. Parce qu'il a de bonnes choses pour toi. Dieu veut susciter la foi dans notre cœur. Et même si Abraham n'avait absolument aucune idée du lieu précis où il allait aller, il a simplement mis sa foi en action. Il a écouté la voix de Dieu et il a obéi à la voix de Dieu. Il s'est levé et il est parti. Il a suivi Dieu et sa vie n'a plus jamais été la même. C'est simplement parce qu'un petit acte d'obéissance d'un homme que désormais nous pouvons nous aussi nous appeler chrétiens et nous aussi nous pouvons nous targuer d'être des enfants, des fils et des filles d'Abraham. Toi aussi, mon ami, si tu obéis simplement à sa voix, si tu fais ce petit pas, ta vie va être complètement transformée. Ta vie va être complètement chamboulée, mais pour le meilleur, pas pour le pire. Je me rappelle du moment où moi, personnellement, j'étais en Angleterre. Je vivais là-bas parce que je voulais me débarrasser de Dieu, je voulais me débarrasser de mes parents, je voulais me débarrasser de mes problèmes, de tout cela. Mais c'est en Angleterre que Dieu m'a parlé. C'est en Angleterre que Jésus s'est révélé à mon cœur et qu'il m'a dit « André, je t'aime. André, je suis mort pour toi. » Et à ce moment-là, moi aussi, je veux pas me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, mais moi aussi, Dieu m'a dit, sors de ce pays et va là où je t'indiquerai. Et il m'a fait revenir en France. Si Dieu te dit ce matin de te lever, si Dieu te demande ce matin, si le Saint-Esprit te demande de te lever de ton état et de le suivre, alors mon encouragement et l'encouragement de bien des personnes dans ce lieu, c'est simplement, lève-toi et suis-le. Lève-toi, obéis-lui et tu verras toi-même que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie va être complètement transformée. Alléluia. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, on le voit quelques chapitres plus loin, c'est une foi expérimentée. Alors que Abraham a commencé à vivre avec Dieu, qu'il lui a obéi dès le début et qu'il commence à l'expérimenter dans sa vie, à un moment, Dieu se révèle à nouveau à lui, et il lui parle, et il lui fait une promesse. Alors que Abraham commence à prendre de l'âge, Dieu lui fait une promesse. Il lui dit, Abraham tomba sur sa face, Genèse 17, versets 3 à 6, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Alors que là encore, Abraham n'a rien demandé. C'est Dieu qui se révèle à lui. C'est Dieu qui vient lui parler. Et bien humblement, je crois de tout mon cœur que ce matin, alors que je suis en train de parler, Dieu se révèle à toi aussi. Dieu te parle aussi au travers de sa parole. Peut-être que dans ta vie, Dieu t'a fait des promesses. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Parce que Dieu t'aime, parce que tu es son enfant, tu es sa fils, tu es son fils ou sa fille, il t'a fait des promesses. Il t'a promis de te donner quelque chose, il t'a promis peut-être de te faire partager quelque chose. Il t'a peut-être fait une promesse pour un travail. Peut-être qu'il t'a promis de te donner un conjoint, peut-être qu'il t'a promis de te donner un enfant. Peut-être qu'il t'a promis une guérison, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Peut-être qu'il t'a promis une réconciliation, mais quoi que ce soit, je veux te demander de ne pas faire comme Abraham dans ce cas-là. N'essaye pas de faire en sorte que tu puisses réaliser sa promesse. Alors que la promesse de Dieu à Abraham était « Je vais te donner une descendance ». Alors Abraham a pris les choses en main, il a décidé de faire les choses à sa manière. Et malheureusement, tout ce que cela a causé, ce sont des conflits, des jalousies et beaucoup de problèmes. Mais une fois qu'il a réalisé que ça ne servait à rien, qu'il n'avait pas la force en lui-même de réaliser les problèmes, les promesses de Dieu, Dieu s'est révélé à lui en lui disant « C'est moi qui vais le faire, parce que c'est ma promesse ». Et là encore, ce matin, je sais que parmi nous, Dieu a promis quelque chose à ton cœur. Dieu t'a fait une promesse. Et peut-être que tu as essayé par tes propres forces de faire en sorte que ça se réalise. Peut-être que tu as mis la main dans le cambouis et tu as essayé avec ton intelligence, avec tes connaissances, avec tes relations, avec les enseignements. Tu t'es dit, non, moi, je vais y arriver. Le Seigneur te dit, non, arrête. Arrête, parce que tout ce que tu fais, c'est retarder la réalisation de sa promesse. À l'âge de 99 ans, alors que humainement parlant, Abraham ne pouvait plus avoir d'enfant, à l'âge de 100 ans, pardon, et que son épouse en avait 99, alors que humainement, physiquement, physiologiquement, c'était impossible, Dieu s'est révélé. Dieu a manifesté sa puissance. Et parce que Abraham a mis sa foi en action, parce qu'il a cru que ce que Dieu disait était vrai, que ce que Dieu disait était possible, que ce que Dieu disait allait se réaliser, alors ça s'est réalisé. Et Dieu lui a donné un enfant. Il lui a donné Isaac. Isaac qui veut dire rire. Pourquoi? Parce que désormais, lorsqu'on pense à cette histoire, il est difficile de ne pas sourire. Un homme de 100 ans et une femme de 99 ans qui ont pu avoir un enfant. Il y en a même certains, malheureusement, qui ne le croient pas tellement ça a l'air incroyable, tellement ça a l'air impossible. Et pourtant, avec Dieu, rien n'est impossible. Cette foi, nous sommes appelés à l'expérimenter. C'est bien de se lever et de suivre le Seigneur, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a d'autres choses pour toi. Il veut te faire expérimenter cette foi dans des domaines bien divers et variés. Et là encore, je me permets de parler de moi puisque je suis la personne que je connais le mieux. Mais c'est simplement pour montrer que lorsque Dieu fait une promesse, il la réalise toujours. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être une partie ou mon témoignage, mais alors que j'étais très jeune, à l'âge de 5-6 ans, des paroles sont venues dans mon esprit, des mensonges. J'ai cru que j'étais une fille. Je vous laisse imaginer les complications psychologiques. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que j'imaginais pour mon avenir. Je pensais être une fille dans le corps d'un garçon. Et malheureusement, on en entend de plus en plus parler. Je vous laisse imaginer le désespoir. Je vous laisse imaginer l'incompréhension totale dans l'esprit d'un petit enfant. Et j'ai grandi comme ça, sans en parler à personne. Mais alors qu'un jour, je me suis levé et que j'ai pris cette foi que Dieu a suscité, Dieu m'a fait une promesse et il m'a dit, je te délivrerai. Ça a pris un peu de temps, je dois vous l'avouer. Oui, ça a pris un peu de temps. Moi, j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus rapide, que ce soit beaucoup plus radical, mais ça a été subtil. Mais un jour, Dieu m'a délivré. Et plus que délivré, Dieu m'avait fait une promesse. Il m'avait dit, André, un jour, tu te marieras avec une fille. Je vais pas lui demander de se lever, mais elle est juste là. Tout est possible à celui qui croit. Pas à celui qui a de la force. Pas à celui qui a un bon psy. Pas à celui qui a de l'argent. Pas à celui qui comprend tout. À celui qui croit. À celui qui est persuadé. Celui qui est persuadé que la parole de Dieu, elle est à toute épreuve. Celui qui est persuadé que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Si toi aussi, Dieu t'a fait une promesse, peut-être que cela fait longtemps. Peut-être que comme Abraham, tu t'es dit, j'ai tout essayé. Laisse-moi t'encourager. Ça tombe bien que tu aies tout essayé et que ça n'ait pas marché. Parce que maintenant, Dieu va intervenir directement. Après cela, toujours cette même foi, après avoir été suscité, après avoir été expérimenté, dans la vie d'Abraham, la foi a été éprouvée. Une foi testée. Une foi qui a été mise à l'épreuve par Dieu. Je vous laisse prendre Genèse au chapitre 22. Si la vie d'Abraham s'arrêtait là, elle aurait déjà été extraordinaire. Un homme d'une toute petite ville insignifiante que Dieu appelle, que Dieu suscite pour sortir de chez lui, pour aller dans un autre pays que Dieu veut lui donner. Alors qu'il est avancé en âge, alors qu'il ne peut plus avoir d'enfant, Dieu lui donne un enfant et au travers de cet enfant, Dieu lui fait la promesse que cet enfant aura des enfants et qu'il y aura une multitude de nations qui sortiront de sa postérité, que des rois, que des nations sortiront de sa descendance. On aurait très bien pu s'arrêter là. Mais avec Dieu, il y a toujours plus à découvrir. C'est pourquoi il nous est dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est pour ça que l'éternité, je pense, ne sera pas suffisante pour découvrir toute la bonté, pour découvrir toute la grandeur, pour découvrir toute la beauté, la puissance et la majesté du Dieu que nous servons. Abraham, après avoir eu une vie incroyable, Dieu l'a fait sortir de son pays, il l'a conduit dans une nouvelle contrée, il lui a donné un fils dans sa vieillesse, à tel point que le monde entier en est émerveillé. Mais voilà que Dieu va mettre à l'épreuve la foi d'Abraham. Soyons bien conscients que je ne parle pas de trois fois différentes, c'est la même. La foi qui est d'abord suscitée, puis la foi qui est expérimentée, et ensuite une foi qui est mise à l'épreuve. Abraham a eu confiance en Dieu pour son avenir. Il a eu confiance en Dieu pour ses besoins. Il a eu confiance pour la réalisation des promesses de Dieu. Mais désormais, Dieu va lui demander de lui faire confiance, non pas avec quelque chose en particulier, mais avec tout. Avec tout. Isaac, le fils d'Abraham, représente tout pour lui. Surtout à cette époque, il est sa joie, il est sa fierté, mais il est aussi son avenir, il est sa postérité, il est aussi son témoignage, il est son honneur. Et pourtant, Dieu va lui demander de le lui donner. Genèse 22, lisons les deux premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu n'est pas intéressé par notre compte en banque. Dieu n'est pas intéressé par notre réputation. Dieu n'est pas intéressé par nos capacités, tout ce que nous, on est capable de dire ou de faire. La chose que Dieu veut, c'est notre cœur. La chose après laquelle Dieu est, c'est ton cœur. Pas tes aptitudes, pas ton intelligence, pas tes diplômes, pas tout ce que tu peux faire. Tout ce qu'il veut, c'est simplement que tu lui donnes, que tu lui remettes et que tu lui confies ton cœur. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. En tant que chrétien, il nous arrive des fois d'avoir l'impression que Dieu est méchant. Que ce que Dieu demande, sérieusement, sincèrement, c'est cruel. Que ce que Dieu nous demande de faire, que ce que Dieu nous demande d'abandonner, que ce que Dieu nous demande de lui redonner ou de lui donner, des fois, c'est juste pas sympa du tout. Et c'est exactement ce qu'Abraham aurait pu se dire. Il faut savoir qu'à l'époque, les Cananéens, les Sumériens, toutes ces peuplades avaient l'habitude de faire des sacrifices humains. Ils avaient l'habitude de tuer leurs propres enfants, je vous passerai les détails. Mais pour apaiser des dieux, pour avoir une bonne récolte, pour avoir une victoire à la guerre, ou pour simplement se faire bien voir d'un dieu, d'innombrables récits nous parlent, que ce soit dans la territoire d'Israël, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique ou même en Europe. Des dizaines, des centaines de civilisations ont eu cette habitude de prendre leurs enfants et simplement pour faire plaisir à un dieu, de le tuer. C'est peut-être pour cela qu'à ce moment-là, Abraham n'a pas régimbé, il n'a rien dit, s'est dit finalement, Dieu, il est comme les autres. Il est comme Baal, il est comme Astarté, il est comme Moloch, il est comme tous ces dieux autour. Il demande quelque chose qui me tient à cœur, il demande quelque chose qui m'est cher. Mais s'il demande, je vais le lui donner, comme tous les gens faisaient autour de lui. Et alors qu'il s'apprêtait à faire cela, on lit au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors qu'Abraham s'apprêtait à faire ce que Dieu lui avait demandé, Dieu l'arrête parce que Dieu veut rétablir la vérité. Dieu veut montrer à Abraham, mais il veut montrer aussi au monde que nous n'avons pas besoin de tuer qui que ce soit pour lui être agréable. Il y a à l'heure actuelle des croyances, des religions qui nous disent que pour être agréable à Dieu, que pour pouvoir aller au paradis, pour pouvoir être en sa présence, il faut tuer. C'est pas le Dieu que je sers. C'est pas le Dieu d'amour dont la Bible me parle. Ce n'est pas le Dieu qui m'a sauvé. À aucun moment, Dieu ne nous demandera de tuer pour lui être agréable. Au contraire, il nous demandera plutôt de donner notre vie pour ceux que nous aimons et même pour ceux que nous détestons. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement que nous puissions chercher, que nous puissions trouver Jésus dans cette histoire. Parce que dans toute histoire biblique, dans toute parabole, dans tout enseignement, dans toute prédication, il faut toujours trouver Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et je vais vous montrer que même dans cette histoire, Jésus est présent. Genèse 22, verset 3, nous dit « Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. » Verset 3, « Il fendit du bois pour l'Holocauste. » Verset 6, « Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. » Verset 7, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et un peu plus loin, verset 9, « Lorsqu'ils furent arrivés, un petit peu plus loin, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. » Le mot « bois » et cet élément du bois est bizarrement omniprésent. À l'époque, bien évidemment, pour faire un holocauste, il fallait prendre une victime, la tuer, puis la faire brûler de façon à ce que l'odeur puisse accéder aux cieux. Et donc, tout à fait normal que Abraham ait pris du bois. Mais il nous est dit bien précisément qu'il a fendu le bois, qu'il a porté le bois, qu'il a pris le bois, qu'il a rangé le bois et qu'il a mis son fils sur le bois. Et en tant que chrétien du Nouveau Testament, en tant que suivant et disciple de Jésus-Christ, je ne peux m'empêcher de penser à un autre bois. Un autre bois qui aussi a été préparé. Un bois qui a aussi été porté. Un bois qui a aussi été utilisé et sur lequel un autre fils a été déposé. Ce bois, c'est le bois de la croix. Sans le savoir, près de 2000 ans avant que cela n'arrive, Abraham était en train d'expérimenter le cœur de Dieu. Il y a des fois dans nos vies où on a l'impression que ce que Dieu nous demande est non seulement impossible, mais que c'est cruel, que c'est méchant. J'aimerais nous rassurer, non. Non, parce qu'il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose que Dieu a déjà prévu d'avance. Alors que Abraham allait donner son fils, le bélier était déjà là. Il nous est pas dit que le bélier est apparu. Il nous est pas dit qu'il est arrivé en courant. Il nous est dit simplement que Abraham a levé les yeux et il a vu. Il a vu que c'était déjà là, que c'était déjà là pour lui. Quelle que soit la chose que Dieu te demande de sacrifier, te demande de lui donner, te demande de lui rendre, je veux t'encourager en te disant que c'est déjà là, c'est déjà prêt. Dieu n'était pas intéressé dans la vie d'Isaac. Comme je le disais, Dieu est un Dieu d'amour. On n'a pas besoin de tuer ou de sacrifier des gens, des vies humaines pour pouvoir lui être agréable. Mais ce que Dieu voulait, c'était le cœur d'Abraham. Si tu as l'impression que ce que Dieu te demande est difficile et que c'est même presque cruel ou méchant, laisse-moi te dire que ce que Dieu veut, ce n'est pas vraiment cette chose-là. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Et au travers de cette expérience, il veut te faire expérimenter son propre cœur. Parce qu'il y a 2000 ans, alors que Jésus a été chargé de ce bois, alors que Jésus a porté ce bois, alors que Jésus a vu ce bois être installé et que lui-même y a été cloué, la mort n'a pas été arrêtée cette fois-ci. Alors qu'Abraham s'apprêtait à tuer son fils, Dieu lui a dit « Non, arrête !» Mais 2000 ans plus tard, la mort ne s'est pas arrêtée sur Jésus. La mort n'a pas été déviée. La mort n'a pas été stoppée. Au contraire, la mort a frappé Jésus-Christ de plein fouet. Jésus est mort. Il a été placé au tombeau. Mais pourquoi ? Pour que 3 jours plus tard, il puisse ressusciter. Parce que cette mort, oui, elle a eu son effet, mais elle a été stoppée. Elle ne pouvait pas garder Jésus dans le tombeau. Pourquoi ? Parce que Jésus est pur. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Et en mourant sur la croix, il donnait le sacrifice ultime qui allait être nécessaire pour que toi et pour que moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. De façon à ce que toi et moi, nous n'ayons pas à mourir cette mort. Nous n'ayons pas à être séparés de Dieu pour l'éternité. Nous n'ayons plus à subir le châtiment du péché. Nous n'ayons plus à subir les conséquences de la mort. Mais qu'au contraire, lorsque Jésus reviendra ou que Jésus nous reprendra, nous puissions être avec lui pour l'éternité. Que tu puisses être avec lui pour l'éternité. Cette foi éprouvée était l'ultime cadeau que Dieu voulait faire à Abraham. Et même si je sais que ça peut être difficile à entendre, je l'ai expérimenté moi-même cette semaine. Alors que Dieu nous demandait, à mon épouse et à moi-même, de lui donner quelque chose, de lui rendre quelque chose, ça nous a fait mal, ça nous a fait quelque chose. On n'avait pas envie. Mais au moment où on l'a fait, au moment où on a dit « Seigneur, c'est pour toi ». Seigneur, nous croyons que tu as notre bonheur, que tu as notre avenir, notre futur et notre espérance entre tes mains. Alors soit, nous te le rendons. On a été comme délivrés. On a été comme plus tranquilles. Et désormais, quoi qu'il arrive, c'est entre les mains de Dieu, tout simplement. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses lui donner ton cœur. Mais pas pour que tu te retrouves sans rien. Pas pour que tu te retrouves complètement seul, isolé et dans le désespoir, mais pour qu'il te donne en échange son propre cœur. Pour que tu puisses expérimenter sa propre vie. Que tu puisses goûter à ce que Dieu, à qui Dieu est et à ce qu'il veut faire. Je vais demander simplement à Tony, s'il veut bien venir simplement avec la guitare, et je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants. Alléluia. Alors que nous avons les yeux fermés, ça va être très simple. Je demande vraiment à tout le monde de respecter ces instants. Si tu ne te sens pas concerné, je te demande quand même de fermer les yeux de façon à respecter la personne qui est à côté de toi. Ce matin, j'avais simplement à cœur de parler de cette foi. cette foi que nous sommes appelés à avoir suscité dans nos cœurs, cette foi que nous sommes appelés parfois à expérimenter, cette foi que nous sommes appelés parfois à voir être éprouvés. Mais c'est toujours la même foi. Elle vient toujours de la parole de Dieu. Et quelle que soit l'étape, quel que soit le point sur le chemin sur lequel tu es, où tu te trouves, Dieu veut toujours nous emmener plus loin. Dieu veut toujours nous faire connaître plus de qui il est. Dieu veut toujours partager plus de son cœur avec nous. Alors très simplement, alors que vraiment je demande à tout le monde de fermer les yeux. Merci. Peut-être que tu es sur ce chemin dans ta vie et tu es dans cette ville de Charan. Tu te sens assoiffé et tu sens que Dieu suscite la foi en toi. Tu sens que Dieu te dit, allez, lève-toi, sors, viens avec moi, suis-moi, fais-moi confiance et ta vie ne sera plus jamais la même. Si c'est le cas, je vais te demander simplement de lever ta main à ta place. Si tu sens que Dieu te demande d'abandonner, alléluia, d'abandonner le terrain dans lequel tu es, amen, d'abandonner le pays peut-être dans lequel tu te trouves, peut-être que c'est tout ce que tu connais, c'est ta zone de confort, mais Dieu t'encourage au travers de l'exemple d'Abraham, il y a près de 4000 ans. Si tu lui fais confiance, alors ta vie va être extraordinaire. Ta vie va être, oui, chamboulée, oui, transformée, mais pour le meilleur. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu as eu déjà cette foi suscitée, mais tu as l'impression que maintenant, cette foi, tu dois l'expérimenter. Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait une promesse, il t'a donné un rêve, un songe, une vision. Et tu as l'impression que ça tarde à venir. Tu as l'impression de t'épuiser à essayer de faire en sorte que ça se réalise. Mais ce matin, Dieu te dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et tu verras, tu seras ébahi, tu seras ébloui. Si c'est ton cas ce matin, je vais te demander de lever ta main à ta place. Alléluia. 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 Si tu as besoin d'expérimenter cette foi, alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Et dernièrement, peut-être que tu as cette foi qui est dans ton cœur, peut-être qu'elle est là depuis longtemps. Mais désormais, cette foi, elle est mise à l'épreuve. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu t'a demandé d'abandonner, que Dieu t'a demandé de rejeter, que Dieu t'a demandé de quitter et ça te coûte. Ça te fait mal, c'est douloureux. Mais j'aimerais t'encourager, comme Abraham. Ne regarde pas à ce que tu perds. Mais vois ce que tu gagnes. Et ce que tu gagnes, c'est le cœur de Dieu. C'est expérimenter la personnalité de Dieu, la présence de Dieu, l'esprit de Dieu, dans une plus grande mesure. Si c'est ton cas ce matin, alors lève ta main à ta place. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. J'aimerais simplement terminer en priant. Vous pouvez baisser votre main. Unissez-vous à moi en prière. Priez pour ceux qui ont levé leur main. On n'a pas besoin de savoir quel est le besoin. On n'a pas besoin de savoir qui c'est, mais prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur mon Dieu. Nous te déposons toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu. Parce qu'un jour, ce sera à nous, Seigneur. Un jour, ce sera à nous d'expérimenter notre foi. Un jour, ce sera à nous peut-être de voir notre foi encore une fois mise à l'épreuve. Alors, Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur mon Dieu, pour nos amis qui sont là et qui te demandent ta grâce, Seigneur mon Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que ta parole a été prêchée, que ta parole a été partagée, fais naître en nous, Seigneur mon Dieu, fais renaître en nous la foi, Seigneur mon Dieu, la foi qui déplace les montagnes, Seigneur mon Dieu, la foi qui croit contre toute, Seigneur mon Dieu, contre toute désespérance, Seigneur mon Dieu, alors que toutes les circonstances, le contexte est contre nous, Seigneur mon Dieu, nous décidons de croire, Seigneur mon Dieu, nous prenons la décision non pas par nos propres forces, Seigneur mon Dieu, mais par ton esprit, Seigneur mon Dieu, ni par force, Seigneur mon Dieu, mais par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, nous repartons aujourd'hui avec un dépôt de toi, Seigneur mon Dieu, un dépôt de foi, Seigneur Jésus. Tu as comparé à de multiples reprises la foi à une graine, Seigneur mon Dieu, un grain de moutarde, une graine de sénévé. Seigneur Jésus, cette graine est plantée ce matin dans nos cœurs pour des contextes divers et variés, pour des situations différentes, Seigneur mon Dieu. Mais nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Nous allons la voir grandir, nous allons voir germer un tout petit peu de foi, Seigneur mon Dieu. Mais alors que nous allons l'arroser de ta présence, que nous allons l'arroser de ta parole, que nous allons l'arroser, Seigneur mon Dieu, de ta parole, Seigneur mon Dieu, de prière, alors la foi va grandir, Seigneur mon Dieu. La foi va grandir et nous en verrons les résultats, nous en verrons les fruits, Seigneur mon Dieu. Et à notre tour, Seigneur mon Dieu, comme Abraham, nous pourrons dire, Seigneur mon Dieu, autour de nous, que notre Dieu est grand, que notre Dieu est puissant parce que nous l'avons vu, parce que nous l'avons expérimenté dans notre propre vie. Nous te remercions, Seigneur Jésus, et nous nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu, à toi et à toi seul. Merci, Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus soit béni.